Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
La moitié des habitants du Vietnam, ils sont tout de même 44 millions, vit près des côtes ou dans les deltas, ce qui en fait l'un des pays les plus exposés à la montée des eaux et aux typhons. La région centrale est particulièrement touchée chaque année par des inondations et des tempêtes tropicales qui dévastent les maisons et les champs. Et cela ne va pas s'arranger avec les changements climatiques qui amplifient la violence de ces événements extrêmes. Voilà pourquoi le travail de l'association Development Workshop France pour aider les populations les plus pauvres à s'adapter est essentiel. Pierre Lefebvre s'est rendu dans le centre du Vietnam, dans un petit village de pêcheurs reconstruit justement par des WWF.
C'est pas du vent sur RFI.
Allô, allô, ici le comité populaire du quartier 36 de Wong Kei. On vient d'apprendre qu'une tempête va arriver de la mer de Chine demain. Vous devez renforcer vos maisons. Préparez vos bateaux, mettez-les dans des endroits sûrs pour l'arrivée de la tempête pour éviter des pertes humaines et matérielles.
Ce jour-là, pas de tempête dans le village de Wong Kei, au bord de la lagune, au centre du Vietnam. Ce n'est qu'un exercice. Mais c'est bien cette annonce que redoutent d'entendre les habitants. Elle signifie que le typhon arrive et elle réveille de douloureux souvenirs.
L'eau est arrivée jusqu'à la fenêtre. Tout est parti avec l'eau. Mon mari a mis les deux petits dans la barque. Ma mère est montée sur la fenêtre pour rester au-dessus de l'eau. Elle a appelé au secours, mais comment voulez-vous que les voisins viennent ? Elle a attendu que mon mari ait emmené les petits pour revenir la chercher, et la maison a disparu sous l'eau. Quand l'eau est partie, on est revenu, et il n'y avait plus rien dans la maison. Il n'y avait plus rien, même pas une poêle pour faire la cuisine. Voilà. Il ne restait plus rien. Les cochons et les poulets avaient disparu. On n'avait plus que nos mains. L'État nous a donné des tôles pour refaire la maison.
Reconstruire encore et encore, c'est un cycle qui semble sans fin et auquel sont vouées les populations les plus pauvres, souvent démunies face à de tels événements extrêmes. Avec son association DWF et depuis 25 ans, Guillaume Chantry tente de trouver des solutions techniques simples, efficaces et peu chères pour rendre les maisons plus résistantes. Il nous emmène précisément au village de Wong Kei.
Ce qu'on arrive ici, c'est un village sur lequel on a travaillé il y a 7-8 ans. On avait refait la digue et on a reconstruit quelques maisons qui avaient été détruites par le cyclone en 2006, cyclone Sansen. Les gens vivaient sur les bateaux ici sur la lagune. Maintenant, les maisons juste sur la terre. Mais ici, ils peuvent conserver leurs bateaux pour aller pêcher parce que c'est juste à côté. Ce qui change beaucoup, c'est d'être dans une maison, d'être à un endroit sûr. De pouvoir amener les enfants à l'école, de pouvoir profiter du centre de santé et de pouvoir se projeter un peu sur l'avenir, alors qu'avant, ils n'en avaient pas vraiment beaucoup d'avenir. Et beaucoup ont changé, en s'installant sur la terre, de changer d'activité, hein, de changer, d'arrêter la pêche qui ne rapportait plus beaucoup et d'espérer trouver d'autres emplois un peu plus rémunérateurs et moins difficiles. Il faut se rappeler que traditionnellement, toute une famille habitait sur un bateau qui fait 5-6 mètres de long, 1,50 m de large. Les grands-parents, les parents, les enfants, 365 jours par an. Donc d'avoir une maison même de 25 ou 30 mètres carrés, ça change quand même beaucoup la vie des gens. Voilà, nous allons sortir et aller voir cette première maison. Il y a 7-8 ans, ici, c'était que des cabanes en tôle. Les gens venaient juste de venir des bateaux, on leur avait donné une petite parcelle de terrain, avait construit un abri rudimentaire. C'était que de la tôle. Maintenant, il y a des maisons.
Donc on a là devant nous des petits bateaux, là toujours, donc qui étaient des lieux de vie.
Bateaux qui étaient les bateaux pour où vivaient les familles sur la lagune et qui servaient aussi d'instruments pour aller à la pêche, mais aussi de lieux d'habitation. Et maintenant, les bateaux sont seulement au long de la digue et les gens habitent dans les maisons qui sont ici.
Et donc là, en fait, on a des maisons donc en dur qui ont l'air relativement grandes quand même, assez confortables, donc en béton avec de la tôle ondulée pour le toit.
Oui, et alors ce que vous pouvez voir sur cette maison, parce que quand on a travaillé, reconstruit cette maison, la famille avait pu juste construire les fondations et on a complété la maison. Et il y a un système, par exemple, sur la toiture de tôle ondulée avec des barres en acier pour maintenir le toit. S'il y a un cyclone ou un fort vent qui arrive, ça fait que la maison est à peu près solide et que s'il y a un nouveau cyclone qui arrive ou une forte tempête, le toit ne va pas s'envoler et le reste de la maison est assez solide, donc ils peuvent rester en sécurité pour la fin de leur vie.
Bien, donc là on va descendre parce que là, la route est un peu surélevée et donc on va voir une dame. Des choses en arrivant?
Oui, en général, on retire ses chaussures. Je vous en prie.
Merci. C'est une maison avec un sol en béton ciré. Et puis, donc c'est très haut de plafond, avec, comment on peut appeler ça, une sorte de mezzanine.
Alors ça, c'est une partie aussi au milieu de la maison surélevée. Et en cas de grande inondation, les gens peuvent se réfugier au-dessus. Et aussi mettre tous les objets qu'ils ont en leur possession, ou les réserves de riz ou tout, pour les protéger. Parce que là, on est vraiment au-dessus du niveau le plus haut qui peut arriver.
Voilà, donc on nous reçoit, il y a un grand tapis, et puis on va s'asseoir avec du thé.
Je m'appelle Hoang Tifang, j'ai 46 ans et 3 enfants.
Alors vous habitez dans cette maison depuis combien de temps?
On a construit la maison en 2006-2007.
Avant, vous habitiez où avant de vivre dans cette maison?
Je vivais sur un bateau.
Vous étiez à combien sur ce bateau?
On était 9, plus nous deux et nos deux enfants. Ça fait 13 sur le bateau. Il y avait la famille de mon mari, ses frères et nous.
13 personnes. Et c'est quand même un espace très petit, un bateau, pour vivre à 13. Comment on fait pour vivre à 13 dans un si petit espace?
On n'avait pas d'argent pour acheter un bout de terre, pour construire une maison. Alors, on n'avait pas d'autre choix que de vivre dans ces conditions, sur le bateau, trop petit.
Alors, ça se passait comment une journée sur ce petit bateau?
Du matin au soir, on travaillait sur le bateau. Pour manger et se reposer, on se mettait toujours en rang pour que tout le monde tienne dans le bateau. Et puis tant pis pour ceux qui n'avaient pas d'ombre. Parce qu'il y avait seulement un tout petit abri.
Et comment vous êtes arrivé là dans cette maison? Ça s'est passé comment?
L'État avait encouragé les gens qui vivaient dans les bateaux à aller vivre sur la terre. Il nous a permis d'acheter un petit bout de terrain, nous a donné 6 tôles et 4 colonnes pour construire la maison. Mais après, tout est parti avec la tempête et la grande crue. Et après, on était logés chez des gens. On était tous éparpillés. Ensuite, la Croix-Rouge a donné 200 euros pour construire une maison avec une base plus solide.
Alors avec cette maison, est-ce que vous vous sentez plus en sécurité par rapport aux tempêtes, aux cyclones, aux inondations ?
Depuis que j'ai cette maison, je me sens rassurée pour les tempêtes. En dessous de force 12, mais pas au-dessus.
En quoi cette maison est plus sûre qu'une autre?
Avant ce projet de maison en dur, quand il y avait une alerte, toute la famille courait s'abriter à l'école. Et avec cette maison, pour la tempête, il y a 3 familles qui viennent s'abriter dans la partie en haut.
Comment construire pour rendre ces maisons résistantes aux typhons et aux inondations? L'association DWF forme les maçons locaux à ces nouvelles techniques de construction. C'est l'un d'eux qui nous convie à une visite guidée.
«
Alors on arrive dans la maison, là, donc il y a une première petite maison. Il y a trois chiens là, qui nous accueillent. Voilà, ils nous saluent. Donc on a une maison neuve ici, puis à gauche en fait une petite maison. Il y a un monsieur là qui nous accueille. Le monsieur qui est propriétaire d'un côté et puis le monsieur qui a construit la maison. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit peu un tour de la propriété pour que vous nous expliquiez pourquoi, en fait, comment vous avez conçu une maison qui soit plus résistante aux inondations et aux typhons.
Là, c'était l'ancienne maison. Et ça, c'est la nouvelle. Elle est effectivement beaucoup plus résistante.
Donc, on se déplace, on va vers la maison. Alors...
Maintenant, on arrive à la nouvelle maison. On peut voir ici les fondations. Je peux vous assurer que les matériaux de construction sont de bonne qualité. La maison peut résister aux tempêtes. Elle est haute et donc pas de risque d'être endommagée par les inondations. Cette construction est construite avec des colonnes. À l'intérieur, on met quatre tiges en fer pour être plus solide.
On est donc monté à la maison et en fait, par rapport à l'autre, on a le rez-de-chaussée de la maison. Il est bien à 1,50 m au-dessus du niveau normal. Alors on voit effectivement, alors, du coup c'est renforcé, elles sont plus épaisses en fait ces colonnes.
Elles ne sont pas plus épaisses que dans l'ancienne maison, mais le fer à l'intérieur est de meilleure qualité et plus gros.
On continue la visite. Alors qu'est-ce qu'on va regarder maintenant là?
On va voir le toit. Il y a des barres en fer pour résister aux cyclones.
Et alors on doit monter là-haut, c'est ça? Il y a une échelle en fait qui monte, une échelle métallique qui monte avec un trou pour arriver jusqu'à l'étage au-dessus. Ben alors on vous suit. Alors je vous laisse passer en premier. Hein. Voilà. Donc ça doit faire 4 ou 5 mètres de haut. Voilà. Donc je vais monter également. Voilà. Alors on est monté et on arrive au toit. Alors c'est quoi les parties qui ont été renforcées ici sur le toit?
Il y a des attaches en acier pour fixer la structure du toit aux poutres. Il y a aussi des barres pour renforcer le toit pour la tempête.
D'accord, donc en somme, pour résumer, on a monté la maison pour les inondations. Il y a des systèmes de crochets qui vont maintenir le toit bien en place en dessous de la maison. Et au-dessus, on a aussi mis des barres pour renforcer la solidité. On va redescendre, on va essayer de ne pas se casser la figure. Alors Guillaume Chantry, qu'est-ce qu'on entend là ici?
On entend une petite courte pièce qui a été écrite il y a quelques années et qu'on a utilisée plusieurs fois dans les écoles primaires. Et c'est une pièce qui est écrite pour des enfants qui jouent le rôle d'adultes pour décrire des situations communes dans un village. Une famille, le père ici est un maçon charpentier. Et donc l'histoire, il y a une tempête qui arrive, la maison du maçon est détruite. Et ses voisins lui disent, mais vous savez, il y a des gens qui font une formation technique pour les maçons et les charpentiers pour apprendre à faire des maisons résistantes. Est-ce que vous voulez suivre? Alors au début, il dit non, et après, il y va, il reconstruit sa maison de manière résistante.
Alors ça, c'est un outil de communication que vous utilisez souvent pour les enfants, pour les alerter en fait sur les risques naturels?
Alors c'est pas seulement, c'était au départ fait pour les enfants dans les écoles primaires, mais ensuite souvent cette pièce ou d'autres qu'on a faites ont été utilisées, montrées dans des shows pour les adultes, mais c'est les enfants qui jouent, pour aussi attirer l'attention des adultes sur les problèmes, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour avant les catastrophes naturelles.
Alors est-ce qu'il s'agit de faire passer un message ou est-ce que l'idée c'est finalement d'ouvrir la discussion et d'ouvrir le débat?
Ça dépend comment on l'utilise. Si on l'utilise, par exemple, la pièce avec les enfants dans le cadre d'un programme dans une école primaire, c'est pour faire réagir les enfants et les enseignants pour discuter après de leurs problèmes localement à eux. Si on passe devant un plus large public, c'est-à-dire les familles, des femmes, des enfants, des vieux et des jeunes, c'est pour faire passer un message... Le message de prévention.
comment ce type d'événement rentre dans le cadre de votre activité? Vous n'êtes pas que des bâtisseurs ou que des prescripteurs, en tout cas, de bâtiments pour résister aux événements extrêmes.
On a essayé depuis le début de démontrer les choses pratiques et techniques, mais pour faire passer le message auprès d'un plus large public, d'utiliser tous les moyens de communication qui puissent exister et faire que les gens se souviennent « Ah, je dois faire quelque chose ».
Le sud-est asiatique est la région du monde déjà la plus affectée par le changement climatique. Et la situation devrait se renforcer dans les années à venir.
My name is Fang Zhen from the Institute for Social and Environmental Transition.
Mon nom est Fang Zhen, de l'Institut pour la transition sociale, environnementale et urbaine. Le premier élément important est le changement de régime des précipitations. Elle devrait beaucoup augmenter pendant la saison des pluies et elle devrait diminuer pendant la saison sèche. Donc le total des précipitations annuelles devrait rester le même, mais c'est leur répartition dans l'année qui devrait changer. Et puis, deuxième élément important, le gouvernement devrait aussi fournir des prévisions sur les épisodes de sécheresse. Mais au Vietnam, les changements les plus évidents concernent les précipitations et le niveau des mers. Au niveau du delta du Mekong, selon les prévisions, le niveau de l'océan s'élèvera jusqu'à 1 mètre. Et si le niveau de la mer augmente, les inondations à l'intérieur des terres et dans plusieurs villes côtières vont s'aggraver. Et c'est d'ailleurs un phénomène que connaissent déjà certaines ville du pays.
Justement, comment on s'adapte à l'incertitude, et notamment pour ce qui concerne strictement l'habitat, quand on ne sait pas exactement quelles vont être, par exemple, la force des typhons?
Yeah, let me give you an example. Lies in the central part of Vietnam.
Laissez-moi vous donner un exemple dans le centre du Vietnam. Pour cette région, il y a des scénarios qui prévoient une augmentation de l'intensité des typhons dans le futur. Et les gens doivent déjà se confronter à cette tendance. Pour les habitations gravement affectées par les typhons, comment conçoit-on des maisons pour faire face à cela? Les populations pauvres ou à faible revenu n'ont pas les moyens de construire des maisons qui résistent à des typhons de n'importe quelle intensité. Nous travaillons donc avec eux pour concevoir une partie de la maison qui puisse être résistante aux typhons et qui ainsi puisse protéger leur vie. Quand on conçoit une maison, il suffit qu'une partie seulement de cette maison, comme le salon ou la chambre, soit vraiment résistante pour éviter tout dommage humain, quand bien même le toit serait emporté ou qu'un morceau de la maison s'effondre. C'est ça la résilience.
Quand vous dites qu'effectivement il va y avoir une pièce au moins qui va résister au typhon, il faut prévoir quand même quel type de force de typhon on s'attend à avoir. C'est un domaine où il y a la plus grande incertitude pour les climatologues.
That is why we need to have some kind of
C'est pourquoi on doit avoir des mesures combinées. Quand on parle de résilience, il ne s'agit pas seulement des infrastructures ou des maisons elles-mêmes. C'est aussi les moyens de subsistance des gens, leur vie quotidienne dans la maison. C'est une combinaison de tout cela.
Quand on parle de résilience dans d'autres domaines, est-ce que ça ne veut pas dire résister en fait et revenir à l'état initial? La résilience d'un matériau, c'est ça? Est-ce que c'est ce que vous attendez en matière de résilience d'habitat?
Quand on parle de construire pour des populations pauvres ou à faible revenu, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais aussi de sécurité pour la vie humaine. C'est ça le concept de résilience. De toute façon, on ne peut pas concevoir des infrastructures qui résistent à n'importe quel événement. Toutes les maisons ont leurs limites. Quand on parle d'approche résiliente, il nous faut donc combiner différents types de mesures. Des mesures dites dures, c'est-à-dire les constructions, et des mesures dites douces, comme les systèmes d'alerte ou le renforcement de la capacité des gens à bien comprendre ces messages d'alerte. Comme ça, ils savent comment agir en cas de typhon.
Ça coûte beaucoup d'argent pour construire une maison qui est résiliente ou résistante à ces typhons. Comment est-ce que des populations pauvres peuvent payer ?
C'est 20% plus cher. Et c'est parfois au-delà des moyens des communautés pauvres. Pour dépasser cette difficulté, il y a plusieurs moyens. Le gouvernement, par exemple, peut aider les gens avec des microcrédits à faible taux d'intérêt.
Là, on se trouve sur le pont qui conduit juste au-dessus du village. Et vous vouliez nous montrer quelque chose?
Oui, d'un côté de la lagune, il y a un hôtel de luxe avec des magnifiques bungalows en bois sur pilotis. Ça coûte $200 la nuit pour loger. Et de ce côté-ci, il y a le village de pêcheurs ou d'agriculteurs. Le revenu d'une famille, c'est $200 par mois au maximum, c'est-à-dire le même prix qu'une nuit là-bas. Avec le réchauffement climatique, de ce côté-là de la lagune, l'hôtel de luxe, s'il y a un peu plus de réchauffement, on mettra un peu plus l'air conditionné dans les chambres. Si le niveau de la mer augmente un petit peu, les bungalows sont sans pilotis. S'il y a des phénomènes extrêmes un peu plus puissants, les bâtiments sont solides, risquent rien. De ce côté-ci, si la température augmente de 2 ou 3 ou plus degrés dans les prochaines années, avec l'élévation du niveau de la mer et de la lagune, toute cette zone sera sous l'eau en permanence. Et les phénomènes extrêmes qui peuvent arriver dans cette zone, comme les cyclones, seront plus puissants. Et les maisons qui sont toujours vulnérables pour la plupart seront facilement démolies. Le Vietnam, tous les ans, perd à cause des catastrophes naturelles environ 1%, 1,5% du produit national brut. Avec le changement climatique, ça peut être 2%, 3%. Ces pertes annihilent complètement tous les efforts de développement ou la croissance possible. Rien qu'actuellement, l'impact des catastrophes naturelles, c'est plus que le gain obtenu par la croissance de l'agriculture. Donc dans les prochaines années, c'est pas dans 50 ans, c'est pas dans 5 ans, dans 100 ans, c'est maintenant que les risques. Et on a l'impression que les organisations internationales et les pays n'ont pas tout à fait conscience de l'urgence de la situation pour les gens dans un certain nombre de pays comme le Vietnam, le Bangladesh ou beaucoup de pays d'Asie ou beaucoup de pays d'Afrique, que le changement climatique, c'est maintenant, ça impacte directement les gens. Et si le Vietnam a fait ses propositions pour la conférence de Paris, ils ont dit, oui, nous, avec les ressources du pays, on peut faire réduire un peu les gaz à émissions de serre, on peut s'adapter jusqu'à une certaine limite, au-delà, c'est-à-dire les deux tiers, en gros, des financements nécessaires, nous ne les avons pas. Donc si nous n'obtenons pas les pays développés, la situation risque d'être dramatique au sens direct, au sens fort, pour 20 millions, 30 millions de personnes au Vietnam, pour 70 millions au Bangladesh et pour des centaines de millions en Afrique. Donc le message, c'est faites quelque chose.
Donc ce programme de construction de villages pour ces pêcheurs auxquels vous avez participé doit en principe limiter la vulnérabilité justement de ces populations, limiter la vulnérabilité de ces maisons vis-à-vis d'événements extrêmes.
Oui, non, mais on peut limiter jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire qu'on peut limiter sur des catastrophes naturelles courantes, sur les inondations courantes, sur les cyclones qui arrivent tous les ans. Le problème ici, par exemple, c'est qu'avec la lagune, en cas de cyclone plus puissant, il y a la force du vent et il y a aussi des vagues de 2 mètres ou de 3 mètres de haut qui s'abattent sur le village. Donc, tant que ça reste dans une certaine catégorie, il est possible, avec des investissements pas très importants, avec les méthodes traditionnelles locales, d'améliorer la résistance et la solidité des habitations. Si ça va au-delà, les investissements sont tellement importants, et c'est possible de faire, mais les investissements sont tellement importants que ce n'est pas la portée de toute la population ici. Notre programme, quand on a commencé il y a 15 ans, qui s'appelait « Prévention des risques dans l'habitat dû au cyclone » dans le centre Vietnam, c'était pour montrer une idée qui n'était pas tellement approuvée à l'époque, ici. C'était de montrer pour que l'habitat des gens, on peut le renforcer, on peut l'améliorer avec les techniques qu'on peut trouver ici, en rajoutant un petit peu d'investissement, pour réduire l'impact des catastrophes normales et qui existe depuis toujours ici, pour que les gens, au lieu de reconstruire à chaque cyclone ou à chaque inondation, puisqu'on investir un peu plus dans leur maison au départ, et ensuite puissent sauver, économiser de l'argent pour leur activité économique, pour les bateaux, pour acheter une moto, pour l'éducation des enfants, les familles riches, les familles aisées, bon. Même s'ils ont des pertes importantes, ils se retrouvent très rapidement. Ils empruntent, ils ont de l'argent, des économies, ils réparent leur maison, ils réparent leur plantation. Pour les gens qui sont, et c'est 20, 30, 40% de la population dans certains endroits, qui sont juste limites de se sortir un peu de la pauvreté, tout événement comme ça rompt le système de développement et les remet quelques années en arrière. Et donc il faut qu'ils recommencent un cycle de développement économique de la famille pour pouvoir émerger.
Si vous voulez en savoir plus sur cette association, toutes leurs coordonnées sont sur la page de l'émission. Tapez « C'est pas du vent » dans les moteurs de recherche. Ce reportage de Pierre Lefebvre a été réalisé par François Porcheron. Demain, nous recevrons le photographe Franck Vogel qui utilise son appareil pour témoigner de la dégradation des grands fleuves du monde. Et nous vous ferons découvrir l'incroyable site de Dalol au nord de l'Éthiopie, menacé par l'exploitation de la potasse. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et à demain, même planète, même heure.